pas passer du côté des médecins spécialistes et des médecins omnipraticiens. Par l'entremise de la presse, ce matin, on apprend que Québec et les médecins spécialistes sont passés tout près de s'entendre à deux reprises. On nous dit à ce moment-là que le gouvernement Legault acceptait d'abandonner les sanctions pour privilégier des mesures d'incitation à l'atteinte de cibles de performance. C'est ce qu'a révélé Lucien Bouchard. Mais on dit qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui mettait le bâton dans la roue, c'est Christian Dubé qui aimerait bien faire capoter les négociations. C'est selon l'ex-premier ministre Lucien Bouchard. On en jase avec un de nos médecins préférés, c'est le Dr Pascal Renault, qui est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec et médecin d'urgence à l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Monsieur Renault, comment ça va?
Ça va bien, merci. Vous?
Merci d'être là. Comment va le moral des troupes? Là? Je sais que vous parlez régulièrement avec vos collègues ces temps-ci. Comment ça se passe?
C'est difficile. Puis aujourd'hui, je ne suis pas avec vous en studio parce que je suis à Montréal. Hier, je siège sur le conseil d'administration du programme d'aide aux médecins du Québec. Puis les demandes d'aide des médecins qui souffrent là, actuellement sont très, très fortes. En une semaine, il y a eu plus de deux fois plus de demandes que ce qu'il y a habituellement dans un mois.
OK, mais quand vous dites que les médecins souffrent, là, ils souffrent de quoi, là?
C'est beaucoup là, de la détresse psychologique. Là. Les médecins qui voient qui ont calculé là, quel serait leur revenu, entre autres, par rapport à ce qu'ils ont, il y en a plusieurs qui disent « j'arriverai pas, je vais perdre ma maison, je vais être obligé là, de changer ma vie. » Puis il y en a qui souffrent aussi parce qu'ils voient leurs collègues partir, ils voient la charge qui augmente pour eux, puis ils voient au bout de la ligne que les patients, leurs patients qu'ils aiment, vont avoir moins de services.
OK. Ben, je veux pas réduire là, les besoins psychologiques des médecins, là, mais quand on parle de « je vais perdre ma maison » et tout ça, là, quand on travaille, des fois, on vit selon nos moyens, puis ce que les médecins peuvent vivre ces temps-ci, le plombier peut le vivre, le gars qui travaille au commerce du coin peut le vivre. T'sais, quand on regarde le salaire des médecins, puis je veux pas tout le temps revenir sur les salaires, mais je vois du 800 000 pour ceux des radiologistes, je vois du 350 400 000 pour ceux des médecins omnipraticiens. Ce bout-là, pour ce qui est des salaires, j'y crois peut-être un peu moins, là.
Mais c'est quand tu as un modèle d'affaires, parce que c'est un peu ça aussi que les médecins ont, là, ils ont un revenu qui est une rémunération globale qui n'est pas un salaire. Là. Il y a des emplois à payer, il y a des. Puis quand tu.
C'est une pression. C'est la pression qui est lourde. C'est d'avoir justement des salaires à sa charge, puis de voir qu'à un moment donné, ça se peut que tu sois même plus capable de payer le salaire.
Exact. Puis les médecins qui ont engagé des infirmières à même leur rémunération pour offrir des services à leurs patients, se rendent compte que je serais peut-être plus capable de la garder. Donc, un, tu as le stress de dire à un employé qui t'aime puis avec qui tu travailles depuis quelques années, t'excuses, mais j'ai plus les moyens de te garder comme employé. Puis, ils voient l'impact que ça va avoir sur leurs patients. Puis, tu vous dites, un employé, ça peut arriver. Oui, ça arrive à tout le monde, sauf qu'une baisse de rémunération de 45 à 55 Il n'y a pas beaucoup, je ne connais pas beaucoup là, d'employés qui vivent ça.
Oui, mais parce qu'une baisse de rémunération, quand on gagne, je ne sais pas, moins 50 000, puis on perd 40 %, c'est majeur. Mettons, prenons le cas le plus extrême des radiologistes qui sont autour de 800 000, et il y en a qui travaillent encore plus que ça, sont capables de dépasser le million. Une baisse de 40 %, mettons qu'à 600-700 000, ils ne sont pas encore dans la misère.
Oui, sauf que... Excusez, les médecins de famille, on n'est pas à 800 000. La moyenne est à 330 000. Puis les frais fixes qu'on a, donc les frais de bureau, tout ça, restent les mêmes.
Ouais.
Donc si on perd une rémunération de 40 %, ben, y a un impact. Puis généralement, les gens ont choisi une maison en fonction du revenu qu'ils avaient puis qu'ils s'attendaient de continuer. Si ce revenu-là baisse de 45 %, ben, à ce moment-là, oui, il y en a qui vont devoir vendre leur maison, en acheter une plus petite. Ils ne seront pas sans abri dans la rue, là. Mais ça change quand même les plans qu'il y avait. C'est un stress additionnel qui s'ajoute avec tout ce qu'ils vivent actuellement.
Je comprends. La main tendue du gouvernement, vous l'avez perçue comment, Dr Renault?
Ben, à chaque fois que le ministre Dubé nous tend une main, on a l'impression qu'il veut nous frapper. Donc, fais attention. Puis, c'est pas quelqu'un à qui, personnellement, j'ai confiance, le ministre Dubé.
Oh?
Je le vois dire à la population toutes sortes de mensonges depuis plusieurs mois. Donc, qu'est-ce que ça cache actuellement? Je suis un peu méfiant là, quand le ministre nous dit ça. Ceci dit, pour les médecins de famille, le 30% qui enlevait notre énumération pour la donner directement aux cliniques, ça aura peu d'impact sur le revenu final parce que de toute façon, ça payait nos frais de bureau, ce montant-là. Donc, ils nous le redonnaient de toute façon. Ce qui fait plus mal, c'est la nouvelle façon de faire la rémunération avec trois volets qu'on a parlé la dernière fois qu'on s'est parlé, la capitation, le tarif horaire et l'acte.
Ouais.
C'est ça qui fait un impact sur la rémunération des médecins. C'est pas le 30% qui, de toute façon, on payait déjà en frais de bureau, là.
Pour le commun des mortels dont je fais partie, là, moi, quand Christian Dubé parle de la négociation, puis il nous dit des choses par rapport aux médecins, je suis pas capable de détecter les mensonges. Pour le bénéfice des auditeurs, puis mon bénéfice à moi, c'est quoi les mensonges? Parce que j'ai parlé à plusieurs médecins dans les derniers jours, incluant dans Marceau le soir. C'est quoi les mensonges que les médecins détectent dans le vocabulaire ou dans les phrases de Christian Dubé pour tenter de contrôler le message?
Je dis souvent à la blague à mes amis, là, j'ai trouvé un truc infaillible pour savoir quand le ministre Dubé mentait, quand il nous parlait. Donc, à chaque fois qu'il nous parle et qu'un son sort de sa bouche, c'est un mensonge.
OK. Mais pouvez-vous être un peu plus explicite,
Une
mettons?
blague, mais le plus explicite, en fait, c'est lorsqu'il dit que les médecins de famille n'ont pas négocié durant l'été. Mais nous, on sait, il y a eu 14 séances de négociation. Donc, ce qu'il veut, c'est gagner un peu l'opinion publique. Lorsqu'il nous dit qu'il n'y aura pas d'impact sur la rémunération globale des médecins, alors que dans la loi, il y a une baisse de 30 % de l'enveloppe des médecins de famille, puis à peu près équivalente là, des médecins spécialistes, là, un petit peu moins. Dans la loi comme telle, les chiffres sont écrits noir sur blanc, puis ils continuent de dire l'inverse. Donc, comment on peut avoir confiance à quelqu'un qui a un discours public? Mais que ces actes sont différents.
Le
Donc, ça en est un exemple concret.
négociateur pour les médecins spécialistes, l'ex-premier ministre Lucien Bouchard, a dit qu'il voulait justement négocier avec quelqu'un d'autre que Christian Dubé. Est-ce que c'est votre demande, vous aussi, pour les médecins omnipraticiens?
En fait, c'est pas moi qui prends ces décisions-là. Personnellement, je trouve que ça serait une bonne idée. Ceci dit, c'est pas moi qui va prendre cette décision-là. Ça va être la Fédération des médecins omnipraticiens de Québec, là.
Donc là, je comprends bien, Christian Dubé, c'est plus du tout l'homme de la situation. Faut repartir des bases avec quelqu'un d'autre.
C'est difficile d'y faire confiance avec tout ce qu'il a fait là, dans les derniers mois.
Là, on challenge ça en cours. Ça va prendre combien de temps avec un juge porte une décision là-dessus? Un an? Un an et demi? Est-ce que la CAQ va être encore au pouvoir à ce moment-là? La réponse, c'est non. Est-ce que vous jasez avec le Parti québécois qui serait susceptible d'être le parti qui prendrait le pouvoir aux prochaines élections, M. Renault?
Ben, en fait, il y a une demande en sursis. Okay, donc, cette demande en sursis, c'est de dire à un juge, il y a une situation exceptionnelle avec des dommages qui sont irréversibles. Donc, on veut surseoir à la loi, donc qu'elle ne s'applique pas tout de suite et qu'elle s'applique lorsqu'elle sera étudiée en profondeur par les tribunaux. Donc, cette demande en sursis-là, on devrait avoir des réponses d'ici 2 semaines. Donc, on va voir est-ce que quels articles de la loi le juge dit, ben, on ne l'applique pas tout de suite, puis quel autre dit, on l'applique immédiatement.
Ou plus tard. OK.
Ou plus tard, c'est
On verra
ça.
plus
Donc,
tard.
là, ce qui va arriver, ça va donner une réponse quand même, puis peut-être un signal qui sera positif pour les médecins en disant, écoutez, je vais attendre avant de faire des changements de ma pratique parce que je peux avoir une solution, en fait, un répit le temps que la justice étudie en profondeur. Puis c'est clair pour tout le monde là, qui ont analysé cette loi-là que plusieurs articles ne passeront pas la Charte des droits et libertés, là. Donc, on s'attend à ce que dans une étude qui sera peut-être dans 2, 3 ans à long terme, mais que les articles soient battus, puis effectivement, la CAQ sera plus là, dans 2, 3 ans. Par contre, si le juge écoute les arguments, puis prend le côté là, des arguments des médecins et suspend l'application de certains articles de la loi, ça va diminuer la pression. Puis ça va obliger le gouvernement à négocier sérieusement. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous le répète aujourd'hui, chaque nouvelle offre dans les quatre qu'il nous a faites était de moins en moins bonne. C'est pas comme ça que ça se passe une négociation habituellement.
Quelles sont les
Puis,
concessions que les médecins sont prêts à faire pour s'entendre avec le gouvernement, puis ben, réussir à passer au travers de toutes ces listes d'attentes-là qui n'en finissent plus de finir? Il y a de ça 2 jours, je parlais avec une infirmière autour de la quarantaine qui pourrait être active si elle avait sa chirurgie pour la hanche, mais ça fait presque 2 ans, Doc, qu'elle est sur la liste d'attente. d'attente. Est-ce qu'il y a un peu de sa faute là-dedans? Est-ce que c'est la faute du trop grand nombre de patients qui sont sur cette liste-là? Mais elle ne l'a pas expliqué. Mais elle pourrait aller aider en santé, mais ça fait 2 ans qu'elle est sur une liste d'attente. Ça nous prendrait peut-être de votre côté, puis du côté de la Fédération des médecins spécialistes, un signe de bonne volonté pour réduire ces listes d'attente-là. Qu'est-ce que vous seriez prêt à concéder?
Bien, juste pour cet exemple-là de la chirurgie, là, il n'y a pas un chirurgien qui ne veut pas opérer. Le problème, c'est l'accès aux salles d'opération. Puis, ce n'est pas les médecins ou les chirurgiens qui vont réussir à régler ça parce qu'eux offrent d'être présents. Eux chialent continuellement là, dans les hôpitaux, dans les CMDP, même dans les médias, qu'ils n'ont pas assez accès à des salles d'opération pour opérer les patients. De notre côté, les médecins de famille, nos salles de chirurgie, bien, c'est notre personnel qui vient nous aider. Puis, à la base, là, il y a une chose qu'on s'entend que le gouvernement, les médecins de famille, on veut s'occuper de tous les patients. Malheureusement, le nombre de médecins qu'on est, avec le manque de 1 500 à 2 000 médecins, ne nous permet pas de le faire tout seul. Donc, dans les solutions qu'on propose, c'est vraiment d'avoir plus d'aide des autres professionnels de la santé. Puis, les infirmières, c'est une ressource qui est très précieuse pour nous autres, parce qu'elles peuvent nous permettre de voir les cas qui sont moins difficiles, qui sont des suivis, puis nous permettre à ce moment-là de libérer des plages pour voir des nouveaux patients. Donc, cette solution-là, on en a parlé beaucoup dans le passé, là, ici à Boulevard. Puis, il faudrait absolument que le gouvernement envisage un plan qu'on a préparé là, pendant plus d'un an à la Fédération, puis à l'association, on a rencontré les médecins du terrain. Ça nous prend un plan où un médecin pourra travailler avec une infirmière, puis qui va pouvoir voir plus de patients de cette façon-là, c'est clair.
Mm-hmm. Travailler avec une infirmière, travailler aussi dans les mêmes cliniques avec des physiothérapeutes, des psychologues, des spécialistes autres pour amener le patient au bon endroit dès son premier rendez-vous.
Exact. Puis actuellement, puis ça va être encore plus vrai avec la loi 2, ça coûte beaucoup moins cher au gouvernement qu'un patient aille voir un médecin pour un problème d'entorse de genou que de voir un physiothérapeute.
Alors que son problème ne sera pas réglé.
Pas d'autres ressources. Mais, en fait, c'est souvent que nous, on va le voir puis on va le référer à un physiothérapeute. Puis si le patient n'a pas les moyens de payer les frais que ça coûte de voir un physiothérapeute, bien, il va revenir nous voir. Puis nous, on va encore le voir parce qu'on va s'occuper de lui, c'est notre patient. Mais au bout de la ligne, est-ce que le système est gagnant? Non.
Non. Pourquoi le gouvernement ne veut pas de cette solution-là? Parce qu'autant moi, dans l'émission d'En Jase, que Yannick, dans Marceau du soir, on a parlé avec Martin Forgue, un haut gestionnaire qui était pour cette façon de faire-là. Émilie Britton, une médecin en Outaouais aussi, qui était pour cette façon de faire-là. Mais les deux se sont fait remercier dans leur poste de conseil au niveau du ministre de la Santé. Pourquoi le gouvernement ne veut pas ça?
Aucune idée. Probablement une question de coût, parce qu'ils se rendent compte que ça leur coûte moins cher de voir un médecin que de voir un autre professionnel. Je ne la comprends pas, sérieusement.
Doc, Renaud, quelle est la place du patient dans toutes ces négociations-là? Parce qu'on a l'impression qu'il est au-dessus de notre tête, puis bon, on est patient, là, c'est pour ça qu'ils nous appellent demain, mais à un moment donné, notre patience a des limites. Là.
Non, mais le patient doit être au centre de tout ça, puis actuellement, il ne l'est pas, malheureusement.
Mais qui nous représente?
Bien, À la Fédération, nous, on a fait une table de valorisation de la médecine familiale. Donc, on a voulu savoir un peu comment on pourrait faire pour que ça aille mieux pour prendre en charge la population. Puis nous, on avait un patient partenaire qui était sur nos comités. La table nationale de valorisation, il y avait 2 patients partenaires. Puis là, c'était la Fédération des médecins praticiens du Québec et le ministère qui co-présidait cette table-là. Puis pour nous, ça a toujours été important que les patients soient présents lors de ces tables-là, parce qu'on a beau, entre nous autres, faire des travaux, si ça ne répond pas bien aux besoins du patient, on va à côté, là, on tire pas sur la bonne cible. Donc, ces patients-là devraient peut-être être intégrés dans des négociations pour pouvoir aussi donner l'input de la population, parce que c'est pour eux qu'on travaille, c'est pas pour nous, là.
Selon ce que vous entendez autour de vous, il y a combien de médecins là, qui ont décidé de quitter? Les derniers chiffres, Jeff, c'est autour de 200-250.
Oui, exactement.
Est-ce que ça risque d'être plus que ça, selon vous?
Ben, malheureusement, ça va être plus parce que moi, j'ai encore en fin de semaine dernière, j'ai un médecin de la région qui m'a écrit, qui m'a dit « J'ai envoyé vendredi dernier un message à mes 1650 patients » pour leur dire que je prends ma retraite dans 4 mois puis que je veux les voir au moins une fois d'ici les 4 prochains mois pour represcrire leur médication. Ce médecin-là a 62 ans. Son plan initial de carrière, c'était de prendre sa retraite à 65 ans. Mais là, il est à bout, il n'en peut plus. Puis il a déjà fait toutes les démarches. Il a averti le Collège des médecins que dans 4 mois, on, il voulait ne plus avoir de permis de pratique. Il a averti ses patients qu'il ne serait plus là. Donc, ces médecins-là, ils ne veulent pas parler publiquement. J'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu veux sortir publiquement pour dénoncer la loi avec ça? Il dit non, regarde, moi, je vais partir silencieusement. Puis malheureusement, ce qui fait le plus mal, c'est ces patients qui n'auront pas d'accès.
Mais il
Puis il y en
s'en
a
va.
plusieurs qui m'ont écrit. Dans la région de la Capitale-Nationale, là, il y en a au moins 7 qui m'ont écrit, puis c'est juste un début. Puis ces médecins-là, ils ne partent pas maintenant parce que le Collège des médecins ne nous permet pas de pas donner un préavis minimalement de 4 mois à nos patients.
Lâchez pas,
Donc,
docteur Renaud.
ben merci beaucoup.
Merci beaucoup,
Bonne fin de
merci à
journée.
vous.
Salut.
Québec et les médecins spécialistes sont passés tout près de s'entendre à deux reprises, c'est ce qu'on peut apprendre dans la presse. C'était avec le gouvernement Legault et ce que le gouvernement Legault mentionnait à ce moment-là, c'est qu'il acceptait d'abandonner des sanctions pour privilégier des mesures d'incitation à l'atteinte des cibles de performance. Problème étant, si on apprend ça par Lucien Bouchard, qui est le négociateur là-dedans, c'est que Christian Dubé est intervenu pour faire achopper les
Ouais.
négociations parce que pour lui, il était hors de question de faire ça.
Pas à une, mais à deux reprises.
À deux reprises.
C'est ça.
Ça ne passe plus. Le courant ne
Non.
passe plus entre Christian Dubé puis les deux fédérations de médecins. Est-ce que François Legault, qui est un individu très entêté, va tasser son chum? Parce que c'est vraiment deux chums, là. Puis Christian Dubé, c'est un grand travailleur. C'est un gars qui fait du 7 jours sur 7. Il a une idée en tête. Là, dans les dernières heures, bon, il a laissé tomber deux trucs qu'il avait mis dans la loi spéciale. Mais les médecins ne veulent plus le voir, là.
Non.
Puis si on tasse Christian Dubé, là, c'est trois choses que tu vas avoir données aux médecins avec rien de l'autre bord, là.
Exactement. Mais quand tu sais, je ne sais pas trop me positionner, mais chose certaine, tu sais, qui a tort, qui a raison depuis le début dans tout ce débat-là. Mais chose certaine, Christian Dubé n'est plus l'homme de la situation. Puis là, François Legault se retrouve devant le dilemme de est-ce que je protège mon chum puis je le garde ou mon parti implose totalement. Là, ça a commencé avec Lionel Carman la semaine dernière et ça va juste continuer, là. C'est rendu que les députés de la CAQ ne gênent même pas pour dire la loi 2, je sais pas comment l'expliquer.
Qui vivra verra si on vit jusque-là.
Ouais.
7h50, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. C'est par messagerie texte si c'est possible de le faire, si c'est sécuritaire.
Secteur des ponts, c'est encore tough. Capitale Ouest, un peu avant Bourg-Royal jusqu'à Laurentienne. Robert Bourassa Sud, c'est au rouge vers le boulevard Lebourgneuf. En 4 Sud, ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières minutes, mais toujours un petit ralentissement hauteur Chauveau. Et sinon, ben, c'est Laurentienne Sud vers rue de la Faune où le gros ralentissement habituel se fait encore sentir.
Dans les prochaines secondes, on reçoit une des grandes dames de Leclerc Communication. La patronne qui est en studio.
Boulevard, le pit stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Annick Marceau.